on continue à explorer le contexte de ces années avec des déplacements en banlieue parisienne, en Italie, donc des présentations d'historiens qui vont nous aider à compléter le paysage. Donc merci à Baptiste Collin et à Hugo Russo de venir à la table nous parler. Alors Baptiste, de scènes et coulisses de la Commune des Couronnes, et puis on partira donc en Italie avec Hugo juste après.
Juste quelques mots pour commencer. Il y en a peut-être certains qui m'ont déjà vu il y a quelques années, parce que j'avais déjà participé à une journée de Pind. C'était celle sur punk et idéologie et sur la violence, où j'avais parlé notamment du groupe de squatteurs Les Vilains. Et je vais en reparler aujourd'hui. Mais mon idée, quand j'ai proposé mon intervention aujourd'hui, c'était de faire ce que je n'avais pas fait jusqu'à maintenant, même dans mon travail d'historien, c'est-à-dire d'aller interroger certains des acteurs de cette époque, donc qui ont bien voulu répondre à mes questions et qui ont bien voulu éventuellement m'indiquer d'autres qui seraient potentiellement prêts à répondre à mes questions. Donc j'ai complété en fait un savoir que j'avais déjà en réserve à partir de ces documentations. Je précise aussi que j'ai constitué donc un diaporama assez riche avec beaucoup d'illustrations, beaucoup de photos, des choses que j'ai glanées à droite à gauche, donc soit dans les archives que j'ai consultées depuis plusieurs années, que je collecte aussi en partie, un tout petit peu, et puis sur des choses que j'ai récupérées sur Internet, qui ne sont donc pas forcément libres de droit, mais que j'ai utilisées pour cette présentation. Et donc ma communication est intitulée « Touareg de la ville, grain de sable dans la machine urbaine et sociale ». Scènes et coulisses de la Commune des Couronnes, et vous allez voir qu'on va parler d'un certain nombre de choses qu'on a déjà évoquées. Mon idée étant de présenter, de vous remettre dans le décor en fait de l'ambiance urbaine qui régnait à l'époque de Béruret Noir, et plus précisément en fait pré-Béruret Noir, pour vous amener progressivement justement sur les endroits qui ont été constitués donc comme des scènes. Et je commence là, c'est un petit clin d'œil puisque j'ai vu que donc Le Monde aujourd'hui Le Monde donc, daté d'aujourd'hui, avait publié un article intitulé « Béruret Noir squatte la BNF ». Et moi, ça me faisait rigoler parce que, évidemment, pour moi, les squats, c'est tout autre chose que ce pourquoi on est là aujourd'hui, ici. Et donc, je me suis dit, je vais quand même rappeler que à cette époque-là, en tout cas, les squats, c'est un mode d'action d'abord, mais c'est aussi des lieux qui sont investis de manière illégale, évidemment, et qui sont occupés, parfois revendiqués, pas tous, il y a certains squats discrets. Et donc, pour vous mettre dans le contexte...
À partir de là, pour te jeter, il faut qu'il fasse un procès. Bon, le procès, il prend du temps, et tout ça, ça te laisse du temps pour continuer le fait de pouvoir rester dans ce squat.
Donc voilà, je vais vous raconter une histoire. Et donc, il était une fois où tout aurait commencé. Il était une fois où donc, les punks seraient nés. On leur a dit... mettez-vous là, et puis on vous rappellera. À ce moment-là, se pose la question, du coup, dans quel décor on les met ? Parce que on a vu quelques illustrations depuis le début de la journée, mais finalement, pas tant de reproduction du décor dans lequel ce milieu et Béruret Noir a évolué. Et donc, parmi les illustrations qu'on pourrait trouver, voilà une illustration d'un squat donc à Belleville en 1975, et puis une autre illustration, donc une photo prise après le concert au Transmusical en 86. Donc voilà le type de décor qui correspondrait peut-être au milieu punk de l'époque. Mais je me suis dit, c'est peut-être du coup mal commencé que de commencer comme ça. On va plutôt se dire que le décor existe déjà, donc. Et que les punks aussi. Voilà, on sait à peu près à quoi ils ressemblent, en tout cas où on a une image où depuis le début de la journée, on a vu un peu à quoi ils ressemblaient. Mais où est-ce qu'on les trouve, où est-ce qu'on les rencontre ? Donc on a évoqué déjà tout à l'heure Voto qui évoquait le trou des Halles avec l'arrivée aussi l'ouverture de la station. Et puis donc on en rencontre quelques-uns autour de la Fontaine des Innocents. Et puis, il y a un autre endroit où on en rencontre, c'est autour du Jardin du Luxembourg. Et plus précisément, autour de l'hôpital Val-de-Grâce, parce que le Luxembourg, c'est un point de rendez-vous. C'est une zone où s'est réunie donc, cette fameuse raya dont on a déjà un peu parlé. Et c'est notamment donc, un endroit où ils se font enfermer le soir précisément pour être peinard et vivre un petit peu de belles aventures. Alors, donc voilà des illustrations de la Raya, enfin des photos de la Raya d'époque, hein, un peu glanées à droite à gauche. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils boivent de la Valstar, ils sniffent de la colle. Et puis, donc, il y a un petit groupe parmi ceux-là qui fait vraiment du Luxembourg et du quartier un peu son aire de jeu, son terrain d'aventure. Et notamment, donc, une section de l'hôpital du Val-de-Grâce qui est en phase de restructuration. Donc, il y a toute une section qui est abandonnée et qui est donc investie par notamment Masto et LOL. Donc, j'ai pas pu le vérifier auprès de lui. Et donc, on trouve quelques photos prises par Masto. Justement, dans cet hôpital. Donc la bande à Lucrate Milk s'éclate dans ces lieux-là, un peu dans une recherche d'extase permanente. Mais, précise LOL, justement, dans le bouquin d'Arnaud Rootboy, Nyark Nyark, l'hôpital, c'était pas un squat officiel, politisé, c'était un squat de fin de nuit, un repère. Donc voilà pour le décor. Maintenant, on se remet dans l'époque. On est donc au début de 1980, c'est l'époque de la fin de règne de Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est une époque où l'arsenal sécuritaire et répressif, implanté au cours du mandat par Michel Poniatowski, Christian, je crois, Bonnet, Alain Perfitte, enrage les militants. C'est l'époque où on a déjà parlé, hein, donc on est l'autonomie, etc. Et donc, quand la jeunesse adolescente de cette époque-là croise ceux qui sont plus vieux, eh ben, ça contribue à la politisation. Et donc, c'est une époque où les mouvements de lutte se radicalisent de plus en plus et les terrains sont multiples, les modes d'action se diversifient. Et parmi donc ces modes d'action, c'est là qu'on voit la prolifération des squats. Maintenant, des squats, il y en a toujours eu à Paris. Mais, et puis là, on voit là, sur cette carte justement que c'est bien sur la couronne parisienne du sud au nord, donc du 14e jusqu'au 19e, 18e arrondissement. Et donc avant les squats que vont expérimenter les punks de cette époque-là, il y a plusieurs expériences importantes. Donc les squats, ce sont des repères de militance avant des actions, sont aussi des repères dans l'ancrage territorial des luttes urbaines et dans la construction des groupes de l'autonomie. On s'y retrouve. On y fait un certain nombre de fêtes. C'est là aussi qu'il y a des conflits internes qui émergent, qui se cristallisent. Mais les squats, donc, sont érigés un peu comme des lieux libérés du capitalisme et de l'État. Enfin, c'est pas un peu, mais c'est quand même assez flagrant et revendiqué comme tel pour beaucoup de squats et de squatteurs. Et un exemple, c'est que, justement, avant une grande manifestation, celle du 23 mars 79, il y a plusieurs rafles qui sont organisées dans les squats, justement, pour emprisonner sur le temps de la manifestation, donc, ces personnes qui fréquentaient les squats, donc, considérées comme dangereuses. Et donc, là où s'effectue une rencontre particulière, donc, au sein de ces squats, c'est dans les squats de Belleville, dans le quartier autour de la station de métro Couronne. Elle est particulière, cette rencontre, parce que, justement, elle lie le mouvement punk et l'autonomie libertaire, autogestionnaire. Et donc, ça crée une dynamique assez importante. Et puis, dans les conditions de la gestion urbaine du quartier de Belleville, qui est en pleine restructuration, à cette époque donc de Giscard, puis par la suite des tâtonnements du pouvoir socialiste paternaliste qui essaye un peu de calmer toutes les revendications politiques de la scène, va émerger au cours de ces années-là donc un slogan « Reprendre la ville pour reprendre la vie ». Donc tout se joue dans le rapport de force. Et donc on peut se souvenir de cette rencontre particulière par l'hommage plein d'espoir que le groupe Berruer et Noir donc fait revivre en donnant justement dans cette chanson que vous allez reconnaître des clichés instantanés de cet environnement. Donc pour ceux qui reconnaissent la chanson, réécoutez bien à nouveau les paroles, et ceux qui ne la connaissent pas encore, soyez attentifs, puisque je rediscuterai par la suite de certains lieux et certains événements qui sont cités.
Noël. Ouais. Te souviens-tu encore de la commune des Couronnes, où flottait le drapeau noir au milieu du boulevard? C'était autour du feu qu'on se sentait heureux, on faisait des réjouis. Après toutes les nuits, la 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 des mal famés. Et quand un car passait, tout le monde s'y mettait. Des keufs et des planètes, sous des pluies de canettes. Un petit squat résiste, on y boit de l'agneau, sans promoteur touriste. Maintenant qu'il n'y a plus rien, on en regrettera, car il poussera demain des squats comme des petits pains.
Vous avez déjà des concerts assis à l'époque?
Ainsi squat-il, sans droit ni titre, ainsi squat, sans toit ni loi. Ainsi squat-il, souvent fauché. Ainsi squat, toujours marteau.
Ok, donc il s'agit d'un extrait de l'émission Ciel Bombardi, qui était présentée par Christophe The Chavannes à l'époque, et donc c'est une forme d'extrait promotionnel pour l'album Souvent fauché, toujours marteau, qui sort un mois plus tard. Donc si je remets bien en tout cas les dates, c'est 2 mois avant les concerts à l'Olympia. En revanche, dans cet extrait, pour ceux qui connaissent la chanson, vous l'aurez peut-être remarqué, il manque quelques paroles. Donc je vais vous les lire, je ne vais pas vous les chanter. « Te souviens-tu encore de ces concerts sauvages de la rue des Vilains ? Ils sont fous ces Romains, on se couchait à l'aube, on se levait le soir, on décorait nos pioles et on chantait victoire. » Donc la rue des Vilains, vous en avez ici plusieurs illustrations avec des photos. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui lierait donc les Vilains aux Bérures et Noires ? Les Vilains sont un groupe d'une dizaine d'individus, en tout cas le noyau qui a été constant un peu sur la période, plutôt toto ou libertaire, branché punk, en tout cas pour certains, qui squattent depuis novembre 1980, donc plusieurs logements dans des immeubles de la rue Vilain, pas rue des Vilains mais rue Vilain, mais aussi rue des Couronnes. Dans les squats de la rue Vilain, il y a 6 personnes, une seule femme, d'après ce que je sais, enfin qui m'a dit notamment avoir été l'une des seules à cette époque avec un vrai look punk affiché pour les punks, et avec 2 chats et une chienne, Fifi. On dit les Vilains pour évoquer les squatteurs du secteur, donc ceux de la rue Vilain, ceux de la rue des Couronnes aussi, on les appelle les Vilains. Il y a parmi ces squatteurs donc des loubards, des fugueurs, des petits délinquants, des marginaux, quelques habitués de la bande du Luxembourg, des autonomes, dont certains qui ont voilà une belle réputation de confrontation nerveuse avec la police. Notamment l'épisode, donc ça m'a été raconté à plusieurs reprises, donc on va considérer qu'il est vrai, même si j'ai pas d'image d'archive à vous montrer. Cet épisode d'un mannequin maculé de peinture rouge, donc ça nous renvoie au concert dont on vient d'avoir le récit. Mannequin maculé de peinture rouge étalé au milieu de la rue, à côté d'une mobilette couchée sur le macadam. Tout ça pour provoquer les cités voisines qui, évidemment, affolées, appellent donc la police. Et une fois que la police vient, évidemment, ils sont accueillis joyeusement avec des canettes et autres choses balancées par les fenêtres. Donc, dans ces squats de la rue Vilain, il y a plusieurs personnes qui ont en même temps envie de construire vraiment quelque chose, de faire de l'opportunité de squatter ces lieux-là pour créer et construire des alternatives, pour donner la place à des groupes, à des gens, pour se retrouver, pour se rencontrer, organiser des concerts en dehors des circuits classiques, parce que justement les concerts à cette époque, pour beaucoup, alors parfois il y a eu des intrusions massives sans payer, mais les concerts ils sont plutôt excluants puisqu'ils sont beaucoup trop chers. Donc l'idée c'est un peu de créer peut-être la MJC des punks, parce que les punks, les groupes punks n'avaient pas forcément de facilité pour jouer dans les MJC officiels. Parmi ces gens-là, il y a notamment Violette, d'Ethnopère, qui arrive de Massy dans l'idée de squatter à Paris. Elle est connue à cette époque-là sur le marché Opus de Montreuil parce qu'elle vend des articles de cuir qu'elle fabrique avec Nanar. Il y a aussi Marsu, qui fréquente les squats des Vilains, qui a lui aussi rencontré justement très tôt Narbé et Violette, et qui a souvent traîné donc dans ses squats. Il a aussi quelquefois dormi. Il m'a raconté le souvenir d'un duvet rempli de peinture rose, un souvenir plutôt désagréable, mais dont on peut quand même bien rire. Et dans Nyark Nyark, que j'ai déjà cité, François raconte que le constructeur de l'alternative en France, ça a été en grande partie Marsu. Et Laurent de Renchérir, dans ce même ouvrage, c'est lui qui a un peu tissé la toile d'araignée de ce qu'on a appelé le rock alternatif. Enfin, troisième personne qu'on peut citer, dont vous avez des photos aussi, Mickey, qui arrive d'Avignon à cette époque-là et pour qui le squat, dans un premier temps, c'est vraiment une solution de survie parce qu'il dort plusieurs reprises dans le métro et donc c'est une manière voilà, de sortir de cette galère-là un peu. Toujours est-il donc que l'énergie qui va être canalisée au vilain par ces trois personnes, mais qui n'y vivent pas tous en permanence, et par d'autres, elle va transpirer pour longtemps. À cette époque-là, il y avait une première expérience qui avait été menée à la Parmentière, donc en 1980. Il y a aussi un certain nombre de concerts qui ont été organisés dans le cadre de Rock Against Police, où certains autonomes constituent un service d'ordre. Ça nous a été aussi évoqué tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres lieux improbables pour la tenue de concerts qui montrent bien qu'il y a vraiment une réelle urgence et une demande de créer des solutions. Voilà, on voit ici le golfe de Rouault qui ferme en décembre 80, un concert organisé au quatrième sous-sol d'un parking en novembre 80. Et donc, les vilains qui squattent donc dans le pâté de maison au pied de la colline de Belleville, eux, ils veulent justement coordonner plusieurs luttes et plusieurs de ces énergies pour créer donc des espaces en dehors des systèmes marchands, un contre-pouvoir de la gratuité. L'accent, il était mis donc sur la nécessité de se battre, je les cite là. L'accent était mis sur la nécessité de se battre et de s'organiser sur les besoins immédiats et de résoudre collectivement les problèmes de survie. Cette volonté de ne pas séparer les problèmes explique peut-être la confusion qui régnait dans le squat, mais aussi que nous ayons réussi petit à petit là où la Parmentière avait échoué. En mars 81, ils veulent organiser un rassemblement international de squatteurs, en invitant notamment plusieurs squatteurs qui viennent de Hollande, qui arrivent, alors ils n'étaient pas prévus autant, mais ils arrivent avec trois quarts. Et donc, pour accueillir cette manifestation, les squatteurs de Belleville donc, investissent un peu à l'arrache une usine désaffectée rue des Cascades et tiennent notamment donc une expo malgré le saccage, enfin malgré le fait que les gros bras de la mairie de Paris ont saccagé les lieux pour justement empêcher la tenue de ce rassemblement. Plus tard, les squatteurs de Villains vont ouvrir une permanence juridique dans l'idée d'inciter au développement de squats, évidemment. Ils vont lancer aussi leur premier journal sur le modèle des fanzines punk qui commencent à faire leur apparition. Et puis, c'est la période où Dom, futur coordinateur des SO, va commencer la diffusion de son squat press. Il envisage même l'installation d'un centre de documentation autogéré. On en parlait tout à l'heure, hein, la conservation des archives. Il va finalement renoncer du fait de l'insécurité de la durabilité de ces lieux-là. Et puis, à partir donc des squats press, il tirera plus tard les fameuses nuits calines. Donc, on a trois tomes d'environ 800 pages de documentation d'archives de presse et de tracts de l'époque, uniquement sur les squats. Et il y a d'autres tomes sur d'autres sujets. Donc, les squats des vilains, c'est un point de fixation, un bastion, un lieu d'affrontement direct, un donjon, un lieu de propagande. Et l'une des références pour ces squats-là, c'est le mouvement squatteur d'Amsterdam et de Berlin, qui est un peu souvent pris en modèle. Maintenant, donc, l'idée de départ, c'était quand même, enfin, pas l'idée de départ, mais c'était de profiter de saisir cette vague punk et donc d'organiser des concerts. Il y a plusieurs expériences qu'on pourrait raconter mémorables que je n'ai pas vécues puisque moi, j'étais même pas né. Enfin, si, 82, je suis né en 82. Notamment le souvenir, donc, concert baston dans le terrain vague rue Villain, donc derrière le squat. Récit qui a été immortalisé dans Libé, puisque François va envoyer un récit donc, de ce concert sous le pseudo Gaston Defer. Et ce concert est aussi raconté par Rémi Pépin dans son ouvrage Rebelle. À propos de Rémi, Rémi et Laurent des Bérus, donc, ils se connaissent eux depuis l'école de Crolly à Saint-Mandé. Et donc Rémi est bassiste dans le groupe Guernica, qui joue justement à ce premier concert des vilains. L'organisation du concert, c'est un peu, c'est négocié très rapidement, dans le couscous d'à côté. Vous jouez, bah oui, ok, on joue. Et puis le concert se finit mal, parce qu'il y a un club de bikers qui squatte à deux rues de là, qui débarque et qui veut un peu vient faire sa loi, vient un peu impressionner, montrer les gros bras. Et donc ça finit un peu en baston général. Mais encore une fois, quand on me raconte ça, c'est souvent de manière assez hilare. En parallèle, on a donc plusieurs immeubles de la rue des Cascades qui sont squattés côté impair. Donc il n'y avait pas seulement cette usine que j'évoquais tout à l'heure, mais donc plusieurs immeubles de la même rue. Et donc au 67 de la rue des Cascades, le Matin de Paris dresse un portrait assez punk de cette usine. Une vieille usine, donc je cite le Matin de Paris, une vieille usine désaffectée, des murs défoncés à différents endroits, un endroit lugubre qui sent le désespoir, un amas de ferraille, de détritus, de moquettes pourries, avec un nombre incalculable de canettes de bière vides. Cette usine, on ne sait plus très bien si ça correspond à une sorte de garage avec une rampe pour descendre et accéder à l'espace du concert. Est-ce qu'il y avait une mezzanine dans laquelle il y aurait peut-être certaines personnes qui auraient squatté, donc habité là vraiment? Est-ce qu'il y avait des logements dans l'immeuble du dessus? On ne sait plus très bien. En tout cas, il y a une quarantaine de groupes qui est passé à Cascade pour faire des concerts. On se souvient que la qualité du son y était bonne, ce qui était notable pour les conditions. À l'époque, donc dans le journal des squatteurs Santouani Titre, en 82, à l'époque, ce lieu est considéré par des centaines de personnes comme l'un des rares espaces musicaux alternatifs parisiens. Donc il y a eu une bonne douzaine de concerts qui a déjà été organisée dès les premiers mois d'existence du squat, sur un mode associatif, donc en parfaite autogestion des lieux. Le principe étant donc de se autofinancer au moins pour rembourser la location de la sono et parfois de défrayer quelques groupes. Il y a eu l'idée de faire des travaux, vraiment d'aménager ça, et puis il y a eu l'idée aussi de développer d'autres activités, donc il y a eu des productions, des projections, des expos, des débats. Mais c'est un débat permanent puisque la question c'est toujours est-ce qu'on a vraiment envie de continuer comme ça ? On retient donc qu'il y avait une ambiance assez chaude dans ces concerts-là. Autre extrait d'un journal de l'époque qui raconte l'ambiance dans un concert des Lucrat Milk, justement. On se caille dans cette grande salle de squat sinistre. Presque tout le monde est en noir, plutôt pâle et sinistre. Autour du groupe, la première bande de public, sérieux et attentif, mais statique et froid, finit le pogo. Puis, une bande de dilettantes, un peu plus agitées, bière en main, hésitant entre écouter et bavarder, puis, derrière, les frapper. Une vingtaine d'agités qui se bousculent, se battent, respirent de la colle, descendent de la Valstar, s'envoient des coups de pied et se poursuivent comme dans une cour de lycée à la récré. Il y a aussi quelques loubards punkisés. Et donc, c'est là qu'on peut faire une première référence des Berruriers. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ils ont fait un concert, donc évidemment, les versions des Berruriers dans le terrain vague que j'évoquais tout à l'heure. Donc, les Berruriers, il se dit, rétrospectivement dans le dossier noir, être bien fou, bien punk, crade, dégueu, dingo et bien méchant. Il est né donc en 1978. Il occupe une partie de cette scène. Il raconte donc la prestation des Berruriers dans ce squat à Cascade en mai 82. Je les cite donc. Les Berruriers se font une réputation d'alcoolo dingue parmi le public et les squatteurs organisateurs du concert se demandent toujours ce qu'il se passe dans la salle et dans leur tête lorsque les Berruriers jouent. Dans la salle, on brûle le drapeau français et quelques punks barjots se cognent la tête contre les enceintes de la sono. Le reste du public se dit « qu'est-ce que c'est que ça ? Si c'est ça les Berruriers, je préfère encore mes pieds. Si c'est ça la médecine, je préfère la guillotine. » Le mois suivant ce concert, Laurent, qu'on voit donc apparaître ici sur cette petite scène bricolée dans la rue Bourgon, dans le 13e, donc il a déjà croisé les Berruriers en jouant avec son groupe donc Guernica. Il les rejoint donc pour ce concert rue Bourgon, en remplacement de Pierrot. Il y a d'autres concerts à Cascade, que je voulais aussi évoquer rapidement, à partir des archives que j'ai pu glaner. Donc 200 personnes pour le concert de Zounds, squatteur venu de Londres en février 82. Une vraie révélation pour certains punks de l'époque. Les liens avec ces groupes anglais sont assez solides. Ils sont établis notamment par l'intermédiaire de Lydie Barbarian, qui publie le fanzine Burning Rome, dont on voit un extrait à gauche, et qui coanime avec Vlad, du groupe Les Brigades, l'émission Pessimisme Combatif, donc en ses débuts d'époque des radios libres. Il y a plusieurs enregistrements des concerts qui sont effectués à Cascade. Il y a même des diffusions qui sont envisagées par téléphone pour le compte de Radio Libertaire, et notamment celui de mai 82 avec le groupe qui se baptise pour le soir, les Berruriers Véritables. De ces diffusions naîtra donc le label Visa, qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, qui va donc éditer un certain nombre de cassettes et de fanzines, et puis organisera plus tard, dans les mois qui suivront, plusieurs concerts à l'usine Palikao que j'évoquerai encore tout à l'heure. Toujours à Cascade, il y a aussi l'épisode de la fusillade au moment du concert de UKDK, auquel assistent plus de 800 personnes. Un épisode assez hallucinatoire. On raconte voilà qu'il y a une fusillade effectivement qui a éclaté, c'est-à-dire la baie vitrée qui a été au-dessus de la porte d'entrée a été explosée, et donc il y a deux personnes qui bravement derrière la porte se disent on est là au cas où quelqu'un essaierait d'entrer. Bon, finalement ça n'arrive pas, mais on se dit bien il y a certains excès de violence dans cette scène, mais qui font partie comme on le disait tout à l'heure vraiment de l'ambiance de l'époque. Je cite encore un extrait de la brochure bilan sur la période des squats No Man's Land, publiée par quelqu'un sous le pseudo de Abou Layad. Dans la salle, l'atmosphère était au délire. Les gens et les copains repartirent contents, avec le sourire aux lèvres. Tout le monde s'était bien éclaté, les uns retrouvant les autres, les embrouilles étant oubliées, des connaissances se réalisant. Vous avez encore les paroles de la chanson dont vous avez entendu l'extrait tout à l'heure. Mi-juillet 81, Libé documente l'ouverture du fameux Malfamé. Donc Libé témoigne qu'il y a une pancarte qui est installée à l'entrée et qui interdirait l'accès aux bars, aux zonards, aux dealers, aux junkies, aux indiques, aux parasites, aux politicards, aux clochards débiles itinérants. Les vilains disent effectivement qu'ils veulent absolument pas faire de ce bar un repère de clodo, de dealers et d'alcooliques. Donc c'est un café qui est aménagé, en fait il y a plusieurs époques de ce café-là, donc il semblerait qu'il y en ait trois. Il a été baptisé comme tel d'abord pour accueillir le café donc dans le terrain vague, enfin le bar dans le terrain vague, style des charges publiques, avec des matériaux et du matos réappropriés légitimement, d'après Virus, le journal des squatteurs. Et donc ce bar, il fonctionne sur le principe de la gratuité. Donc vous imaginez la gestion des flux de clients et des stocks de 1000 à 2000 bières qu'il faut établir avant l'organisation du concert. Par la suite, dans ce bar, ou peut-être c'est un autre lieu, mais en tout cas on m'a évoqué l'existence d'une cantine qui a été organisée donc dans les squats de la rue Couronne pour les personnes qui passaient, qui rendaient visite, les camarades, les copains, et donc leur donner à manger, préparer à manger ensemble, parfois avec des choses qui ont été réappropriées le matin, donc avec des opérations dans les caisses qui étaient déposées devant les magasins le matin très tôt avant l'ouverture. François se souvient aussi qu'au Malfamé, on servait des gigantesques sandwichs jambon, fromage ou jambon beurre, qui faisaient la taille donc d'une baguette entière vendue 1 ou 2 francs à l'époque. Et donc, les sandwichs étaient payants, les bières étant gratuites, vous notez. Donc, à Cascade, le principe de la gratuité totale, cette fois, il sera remplacé par le système du prix libre. Donc, on commence vraiment à expérimenter ce système qui s'est pas mal établi dans la scène depuis. Chacun fixait donc le montant de sa participation en fonction de ses moyens. Le climat qu'on voit dans le Malfamé, il est parfois tendu. Hein, il y a des bastons qui éclatent souvent. Mais les vilains ne perdent pas espoir et ils ont toujours l'idée voilà d'organiser un certain nombre de choses sur le quartier. Ils savent donc assez bien ce qu'ils veulent. En même temps, ils déclarent rétrospectivement, on a tout toléré et peut-être on avait une exigence de clarification un peu trop brutale et tranchée. Et ça, donc, il semblerait que François en ait lui-même fait l'expérience. Il répétait à cette époque-là Berrurier dans une cave. Ils vont improviser une répétition dans le squat des vilains, sauvage, à laquelle assistent 15 personnes environ, de la bande à Lucrate notamment. Et puis ils vont donc décrocher leur ticket pour ce concert de septembre 81 dans le terrain vague des vilains, où ils font une prestation digne d'une machine de guerre. Et puis, quelques temps après, François va s'installer avec Olaf dans un petit appart squatté rue des Couronnes, avec parquet au plancher, moulure au plafond, qu'il marque sur la porte comme le territoire des verruriers, donc en collant une affiche berrurier. Mais on leur fait vite comprendre à ce moment-là que leur présence, elle déteint un petit peu avec l'idée du squat. Cette affiche donc sera arrachée. Les vilains, on m'en a plusieurs fois parlé, et puis on en trouve aussi beaucoup de témoignages dans la presse, ils impressionnaient un petit peu par leur radicalité, par leur subversion, par leur soif de convergence, mais aussi évidemment donc par leur côté un peu destroy, punk dans l'âme. Cela dit, ils sont solidaires avec quelques voisins, ils vont notamment ouvrir un squat pour des locataires qui ont été expulsés de leur logement, Monsieur André, Madame Nicole, alors je ne sais pas si c'est eux qui sont représentés ici. Il recueille aussi un vieux monsieur avec son cocker, et donc lui ouvre un squat. Ils le feront à de rares occasions, mais évidemment, ils n'ont pas envie de faire les services du logement. Ils sont aussi en bonne entente avec quelques commerçants du quartier qui les préviennent, par exemple, si la police vient leur poser des questions sur les squatteurs du quartier. C'est un retour de bon service, hein, parce que les vilains vont régulièrement manger dans les boui-boui du quartier. Cela dit, il y a d'autres commerces qui sont aussi la cible des squatteurs, hein, puisque c'est l'époque des grandes opérations d'autoréduction collective, parfois avec des fumigènes, y compris à Bricorama, peut-être pour voler des verrous et les poser après sur les squats qui sont investis. Des opérations basket aussi qui sont organisées. Et puis, il y a aussi des opérations de vengeance, notamment contre le supermarché ED, qui a joué les gros bras et qui a dénoncé donc des squatteurs qui se font arrêter pour certains et donc qui passent la nuit en prison. Dans la rue des Couronnes, il y avait aussi d'autres squats, notamment une pharmacie au numéro 21 qui a été squattée et qui subsiste quelques temps même après que les squats de la rue Villain aient été expulsés. À cette époque-là, François l'évoquait aussi, il y a vraiment des opérations de surveillance de la part des RG qui surveillent la zone. Dans le squat, on voit malgré le fait qu'on soit passé sous l'ère Mitterrand, un slogan qui dit « un flic socialiste reste un flic ». Bref, donc les marginaux sont dans le collimateur. On leur pourrit le quotidien avec des contrôles récurrents, des perquisitions, des arrestations, parfois sans raison, des accusations de deal, de recel, d'assassinat aussi. On leur met tous les meurtres qui se passent dans le quartier un peu sur le dos. On les accuse aussi de liens avec la lutte armée. Bref, une vraie stratégie de harassement, de division aussi, de pourrissement par l'intérieur. Des infiltrations aussi, qui sont pas mesurées à l'époque, mais qui sont avérées par la suite. Donc, des histoires de dope, d'embrouilles, des saccages, des gazages aussi, des matraquages et des tabassages. Et donc, certains qui finissent et qui passent quelques mois en prison à cette époque-là. Je parlais tout à l'heure de l'histoire de la fusillade au moment du concert de UKDK. Il y a aussi un autre épisode, le squat de rue des Cascades, qui est attaqué par des squatteurs prostitués qui appartenaient au groupe des fossoyeurs du Vieux Monde. Attaque qui se solde par un mort du côté des assaillants. Et le coupable déclara pour sa défense avoir agi par la légitime défense face à cette attaque de gens qui appartenaient à la même mouvance, puisque c'était quand même très large, de l'extrême gauche à l'ultra gauche, comme on peut dire, à peu près à la même famille. Et donc, dans leur bilan, les vilains cascadeurs, donc ceux qui sont passés de vilains à cascade, racontent: au moment où notre projet commençait à trouver un certain écho, au-delà du cercle restreint des squatteurs parisiens, nous trouvâmes, au sein de cette mouvance, des adversaires déterminés à s'attaquer à notre projet, nous traitant d'alternatives, de collabos, de racketteurs. Par leur sectarisme et leur méthode, ces individus ont réussi là où l'État avait échoué. Ils nous ont expulsés et nous ont renvoyés à l'ennui et au travail forcé. Et dans ce misérable gâchis, l'État n'a plus qu'à compter les points. Nous n'aurions pu conserver Cascade qu'au prix d'une guerre de bande que seuls les flics avaient intérêt à voir et à orchestrer. Cascade, c'est fini. De cette expérience, il ne reste qu'un manque qu'il s'agit de combler et le regret de n'avoir pas choisi nous-mêmes la fin que nous aurions aimé nous offrir, une fête monstrueuse. Donc rue Villain, ça finit à l'été 82. Il va y avoir une certaine rage qui résulte évidemment des opérations d'expulsion et de la destruction des lieux que vous voyez sur la diapositive précédente. Et c'est là que se manifeste pour la première fois donc la fameuse référence de la Commune des Couronnes, dont on m'a beaucoup parlé, dont Béruret Noir aussi fait référence dans le titre que vous entendez tout à l'heure, dans un tract intitulé « La Commune n'est pas morte », avec où on voit donc la référence historique assez claire. Un tract qui est signé aussi « Commune », collectif ouvertement maléfique méprisant l'Union nationale étatique, notez l'acronyme. Un autre tract qui annonce l'organisation d'un festival qui n'aboutira jamais à cause des embrouilles et justement du flicage de la Seine, devrait justement se tenir dans la commune de Belleville. Et on voit donc sur l'affiche un punk, ou peut-être plutôt une punk, qui lève le doigt en revendiquant le squat dans le contexte de la restructuration urbaine. Voilà, le noyau punk qui est vraiment engagé dans l'organisation des concerts autour de Mickey notamment, de cette expérience-là, il veut un peu sortir, il voudrait bien un espace un peu plus protégé, une sorte de crèche de repli, un squat punk pour les punks, lieu d'habitat et de tranquillité communautaire, et un squat anti-drogue. Il y avait vraiment cette urgence caractéristique du mouvement. Nous voulons vivre dès aujourd'hui ce que nous avons dans la tête, sous peine de l'avoir dans le cul demain. Mickey dégote donc et organise ce nouveau lieu, semblerait-il, avec un soupçon d'autoritarisme bienveillant. Ce squat, c'est le squat Bozzaris, à côté du parc des Buttes Chaumont, où ils doivent faire des excursions la nuit pour aller se laver, parce qu'apparemment, il n'y avait pas d'eau courante dans ce squat. Les seaux qui font office de toilettes sont notamment restés assez fortement dans les mémoires. Ce squat, il est d'abord occupé par 3-4 personnes donc du noyau. Vous avez des photos que j'ai prises sur Google aujourd'hui, donc c'est le lieu en question. C'est une énorme baraque avec un petit jardin devant et derrière, avec un atelier de réparation de bécanes à l'époque, qui serait donc un ancien pensionnat de jeunes filles, devenu une annexe de l'ambassade de Tunisie. Il y avait un escalier en double révolution à l'intérieur. Donc un certain nombre de chambres, donc un squat à plusieurs étages avec un certain nombre de chambres. Les lucrates vont occuper une chambre, ils repeignent la leur à la façon Pollock. François va occuper aussi une chambre, il va repeindre la sienne tout en blanc, avec une fresque samouraï et un lit d'hôpital. Il va recueillir un chat dans le parc des Buttes Chaumont, qu'il baptise Beru, tiens. Au sous-sol du squat, il y a une salle de répète qui sera aménagée, mais en revanche, il n'y aura pas de concert qui sera organisé. Rémi Pépin fête son anniversaire avec les Lucrates. Et autre squatteur important pour la scène de l'époque, Sonchon, le rat de Dolly, qui serait le père de tous les rats de punk de cette époque. Le dossier noir commente, maison superbe, projet commun très chouette. Des soirées quepons, biture, mais aussi des trucs initiatiques, des séances de spiritisme avec Chris Vandal notamment. Mickey, donc chef punk, réveille sa tribu tous les matins au son de Discharge. Et donc c'est pendant cette expérience, que cette période, que Mickey rejoint les Berruriers pour les deux concerts qui ont lieu au KS, donc à Ris-Orangis en septembre 82. Et donc on arrive, je vous ai parlé beaucoup de cette période pré-Berrurier noir, on arrive donc à cette fameuse usine de Palikao, qui est au numéro 22 de la rue et qui est occupée depuis mai 81, qui n'est pas un squat en tant que tel, puisqu'il y avait une convention, c'est ce qui est un peu les prémices des squats d'artistes, des occupations temporaires de friches industrielles. Et donc c'est dans ce squat-là que va se dérouler le premier concert, donc c'est le berceau du concert deuil de Berrurier, noir. Berrurier noir pour le drapeau, pour la tristesse, pour la couleur, série noire, pour rien. À la suite de ces expériences-là, il y aura d'autres tentatives d'ouvrir d'autres lieux, le centre autonome occupé notamment. Il y aura la création de la coordination autogérée pour des espaces libérés. Mais donc ces lieux-là, au fil du temps, ils vont être fermés. Parfois, ils ont une existence très très éphémère. Et donc c'est parfaitement représentatif de ce qu'on voit à cette époque-là. Alors, je vais passer plusieurs diapositives. Retour rue Villain, où a vécu Georges Perret, qui avait fait cette démarche un peu que j'ai essayé moi-même de faire, c'est-à-dire de recréer vraiment l'ambiance urbaine dans laquelle ont émergé ces squats-là. Vous voyez que c'est vraiment une opération, une période où il y a vraiment des très très grosses opérations de restructuration urbaine qui changent radicalement le paysage de Paris. Cela dit, comme le disent plusieurs acteurs de l'époque, les squats qu'ils occupaient, notamment rue Villain, étaient parfaitement indéfendables, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les revendiquer et essayer de les maintenir en tant que tels. C'était vraiment des logements qu'on pourrait qualifier d'insalubres. Là, cet extrait de la BD de Larbi montre une cuisinière branchée sur le poteau d'éclairage électrique pour l'alimentation, mais voilà, l'électricité effectivement était récupérée sur les poteaux électriques. Donc, grosse période de changement. La rue Villain, elle a disparu aux deux tiers pour l'aménagement du parc de Belleville. Donc c'est notamment Georges Perret qui avait fait cette histoire. Je vous invite à relire aussi ses œuvres là-dedans. Et donc les Villains ont essayé vaguement de se défendre contre ce projet, mais évidemment sans y parvenir. Heureusement, ils nous ont laissé un grand nombre de traces, comme vous avez pu le voir. Et donc pour conclure, je vous explique quand même la référence notamment du titre de ma communication, puisque tout ce discours un peu de l'idée de créer des lieux et de surtout de faire converger les différentes luttes sociales, c'est aussi un discours qu'on retrouve sous la plume de Lawari Benchellal, qui était un militant autonome actif notamment dans les réseaux antinucléaires, anticarcéraux, au sein des mouvements de soutien aux travailleurs immigrés et membre souterrain du groupe Action Directe, pour qui il se rendra en Finlande pour changer les travelers tchèques et qui mourra justement dans d'obscures circonstances en janvier 82. Ben Chelal, il écrit aussi dans le magazine Sans Frontières, et au moment de sa mort, les vilains publient donc dans le journal Virus un extrait, donc en hommage à Lawar Ben Chelal, de l'article qu'il avait publié dans le magazine Sans Frontières. Touareg de la ville et grain de sable qui vient perturber la machine sociale et urbaine. Gageons que c'est l'émergence d'une nouvelle forme de résistance diffuse qui se faufilera à la moindre faille. Et le Ben Chelal, il était surnommé aussi Farid. C'est comme ça que beaucoup l'ont connu. Et donc, en conclusion, voilà la rue des Cascades aujourd'hui. En conclusion, le lien entre toutes ces choses-là, je vous rappelle donc l'hommage qu'a voulu rendre Béruré Noir avec son titre « Ainsi squatte-t-il », hein, l'idée de que se perpétue le mouvement squatteur, on souhaitera demain qu'il y aura des squats comme des petits pains, que se perpétue donc cette idée de créer des lieux de concert, parce que pour l'heure, évidemment, c'est déterminé. Et donc je remercie toutes les personnes qui ont accepté donc pour la préparation de cette communication de répondre à mes questions et de me donner aussi quelques documents. Hein. Voilà.
Merci Baptiste.